Chapitre 9. Regret d'un mort. On entend souvent dire que l'art est la magie héréditaire des loin-voyants, et il est de fait que c'est dans cette lignée qu'il semble apparaître le plus régulièrement. Il arrive cependant que l'art surgisse sous la forme d'un don latent en n'importe quel point des six duchés. Sous le règne des monarques d'autrefois, la coutume voulait que le maître d'art au service du souverain loin-voyant de Castelserre se mette en quête de jeunes gens qui manifestaient quelques prédispositions à l'art. On les amenait à Castelserre, on les formait à la magie s'ils possédaient un talent suffisant, et on les encourageait à constituer des clans, groupes de 6 personnes qui se choisissaient mutuellement et soutenaient le trône selon les besoins du monarque en place. Malgré une incroyable rareté des documents sur les clans, rareté qui pourrait laisser à penser qu'ils ont été systématiquement détruits, la tradition orale indique qu'il n'existait pas plus de 2 ou 3 de ces groupes simultanément, et que les artiseurs puissants ont toujours été des exceptions. La méthode des maîtres d'art pour repérer les enfants doués d'un embryon de talent s'est perdue. Le roi Bonté, père du roi Subtil, a rompu avec l'habitude de former des clans, croyant peut-être que la restriction de la science de l'art à l'usage des seuls princes et princesses augmenterait le pouvoir de ceux qui possédaient ce savoir. Voilà pourquoi, lorsque la guerre parvint aux côtes des 6 duchés sous le règne du roi Subtil, il n'existait nul clan d'art qui pût aider les loin-voyants à défendre le royaume. Je m'éveillais en sursaut au milieu de la nuit. Malta. J'avais laissé la monture du fou attachée à un piquet sur la colline. La ponette avait dû rentrer toute seule et même reprendre sa place dans la grange, mais la jument était restée sur son versant toute la journée, sans eau, pour se désaltérer. Il n'y avait pas 36 solutions. Je me levai sans bruit et sortis de la maison sans refermer la porte derrière moi pour éviter que le cliquetis du loquet ne réveille le fou. Je laissai même le loup tranquille et m'enfonçai seul dans l'obscurité, faisant une brève halte à la grange. Comme je l'avais prévu, la ponette s'y trouvait. Je l'effleurai de mon vif, elle dormait, et je ne la dérangeais pas. Je gravis la colline où j'avais attaché la jument, en me félicitant de n'être pas en hiver et que la nuit soit claire. Les étoiles et la pleine lune paraissaient toutes proches. Pourtant, je me laissais moins guider par mes yeux que par ma connaissance du sentier, due à une longue habitude. Quand j'arrivais près de Malta, elle émit un reniflement de reproche. Je dénouai la corde du piquet et repris mon chemin en sens inverse, la jument derrière moi. Parvenu au ruisseau qui coupait notre route pour aller se jeter dans la mer, je m'arrêtai pour la laisser boire tout son soûl. La nuit estivale était magnifique. Sous la douce brise, le bourdonnement léger des insectes nocturnes emplissait l'air, accompagné par les bruits du cheval en train de se désaltérer. Je laissai mon regard errer autour de moi pour m'imprégner de l'instant présent. La pénombre dépouillait l'herbe et les arbres de leurs couleurs. Et pourtant, les noirs et les gris crus donnaient au paysage un aspect plus complexe qu'en plein jour. L'humidité du vent léger réveillait tous les parfums d'été qui somnolaient pendant le jour. J'ouvris la bouche et pris une grande inspiration pour savourer plus complètement la nuit. Puis, je m'abandonnai à mes sens, oubliai mes soucis d'humain pour saisir l'instant et le laisser s'étendre éternellement autour de moi. Mon vif se déploya et je ne fis plus qu'un avec la splendeur nocturne. Le vif porte en lui une euphorie naturelle, semblable à celle de l'art et pourtant différente. Avec le vif, on a conscience de toute la vie dont on est entouré. Pour ma part, je sentais non seulement la chaleur de la jument toute proche, mais aussi les formes scintillantes des myriades d'insectes qui peuplaient la végétation, et même l'obscure force vitale du grand chêne qui tendait ses branches entre la lune et moi. Un peu plus haut sur la colline, un lapin se tenait immobile, tapis au milieu des herbes de l'été. Je percevais sa présence indistincte, non comme une flammèche de vie située en un lieu précis, mais comme parfois on capte soudain le timbre d'une voix particulière dans le brouhaha d'un marché. Par-dessus tout, cependant, j'éprouvais un lien de parenté physique avec tout ce qui vivait dans le monde. J'avais le droit de me trouver où je me trouvais. J'appartenais autant à cette nuit d'été que les insectes ou le ruisseau qui murmurait à mes pieds. À mon sens, Cette antique magie tire une grande part de sa force de la reconnaissance de ce fait. Nous faisons tous partie du monde. Pas davantage que le lapin de la colline, mais certainement pas moins non plus. La justesse de cette unité déferla en moi, me lavant de la souillure que ma récente soif de l'art avait laissée sur mon âme. J'inspirais profondément, puis relâchais ma respiration, comme s'il s'agissait de mon dernier soupir, et usais de toute ma volonté pour ne faire plus qu'un avec cette belle nuit immaculée. Ma vision se brouilla, se dédoubla, puis s'éclaircit. Pendant une brève exhalaison de temps suspendu, je ne fus plus moi-même. Je ne me trouvais plus sur le versant de la colline, près de ma maison en plein été, et je ne fus plus seul. J'étais redevenu un adolescent, et je venais de m'échapper d'étouffants murs de pierre et de draps emmêlés. Légèrement chaussé, je traversais en courant une pâture parsemée de touffes d'herbe que les moutons avaient laissées intactes, et je m'efforçais en vain de soutenir le rythme de ma compagne. Elle avait la beauté du ciel piqueté d'étoiles, et sa robe fauve était rayée d'obscurité. Elle se déplaçait sans plus de bruit que la nuit elle-même. Je la suivais, non grâce à mes yeux d'homme, mais à l'aide du lien de vif qui nous unissait. J'étais ivre d'amour d'elle, ivre d'amour de cette nuit, sous de la fièvre capiteuse de cette folle liberté. Je savais que je devais rentrer avant le lever du soleil, mais elle savait, avec la même conviction, que rien ne m'y obligeait, qu'il n'y avait pas d'instant plus propice pour nous enfuir. Je repris ma respiration et le contact se rompit. La nuit séductrice fleurissait toujours autour de moi, mais j'étais de nouveau un homme fait et non plus un jeune garçon perdu dans l'émerveillement de son premier lien de vif. J'ignorais qui étaient ces enfants que mes sens avaient effleurés, où ils se trouvaient, et pourquoi nos consciences s'étaient si intimement mêlées. L'adolescent avait-il perçu autant de moi que moi de lui? Cela n'avait pas d'importance. Où qu'ils fussent, lui et sa compagne, quelle que fût leur identité, je leur souhaitais bonne chance pour leur chasse nocturne, et j'espérais que leur lien les unirait longtemps et profondément. Un tiraillement interrogateur parcourut la longe. Malta avait fini d'étancher sa soif et n'avait nulle envie de rester sans bouger tandis que les insectes piqueurs se repaissaient d'elle. Je m'aperçus alors que la chaleur de mon corps avait elle aussi attiré tout un essaim de bestioles assoiffées de sang. La jument agita la queue et je battis l'air autour de moi avant de reprendre notre descente de la colline. J'installai Malta dans l'écurie, puis me glissai sans bruit dans la chaumière et retournai me coucher. Œil de Nuit s'était étiré pendant mon absence et m'avait laissé moins de la moitié du lit, mais cela m'était égal. Je m'étendis contre lui et posai une main légère sur son flanc. Les battements de son cœur et les mouvements réguliers de son poitrail qui obéissaient au rythme de sa respiration étaient plus apaisants qu'une berceuse. Alors que je fermais les yeux, j'éprouvais une paix de l'âme que je n'avais plus ressentie depuis des semaines. Je m'éveillai tôt le lendemain, l'œil vif et l'esprit clair. Mon escapade sur la colline paraissait m'avoir mieux reposé qu'une nuit ininterrompue dans mon lit. En revanche, le loup ne se portait pas aussi bien. Il dormait toujours profondément d'un sommeil réparateur. J'éprouvai un léger remords que j'écartai aussitôt. Mon intervention sur son cœur puisait apparemment dans les ressources de son organisme, mais cela valait sûrement mieux que si je l'avais laissé mourir. Je lui abandonnai le lit et ne tentai pas de le réveiller. Je ne vis le fou nulle part, et la porte ouverte m'indiqua qu'il était sorti. J'allumai un petit feu, mis de l'eau à chauffer, puis fis ma toilette et me rasai. Je terminai de lisser mes cheveux humides quand j'entendis les pas du fou sous l'auvent. Il entra, un panier rempli d'œufs dans le creux du bras. Je me séchai le visage et, quand je levai les yeux vers lui, il s'arrêta net, un sourire s'élargissant sur ses lèvres. « Mais c'est Fitz, un peu plus âgé, un peu plus décati, mais Fitz quand même. » Je me demandais de quoi tu avais l'air sous cette broussaille. Je me regardais dans le miroir. C'est vrai, je ne fais plus guère attention à mon apparence. Je me fis une grimace, puis essuyai une petite goutte de sang sur ma joue. Comme toujours, je m'étais coupé là où l'ancienne cicatrice, souvenir de mon séjour dans les cachots de Royal, barrait mon visage. Merci, Royal. D'après Astéry, je fais beaucoup plus vieux que mon âge, ce qui me permettrait de retourner à Bourg-de-Castelserre sans crainte d'être connu. Le fou eut un petit grognement dédaigneux en déposant les œufs sur la table. Astéry a tort sur tous les points pour ne pas changer. Étant donné le nombre d'années et d'existences que tu as vécues, tu as l'air exceptionnellement jeune. Certes, l'expérience et le temps ont modifié tes traits, et ceux qui ont gardé le souvenir du fils enfant ne le verraient pas adulte en toi. Mais certains d'entre nous, mon ami, te reconnaîtraient, même écorché vif et au milieu des flammes. Eh bien, voilà qui est rassurant. Je posai le miroir et entrepris de préparer le petit déjeuner. Pour ta part, tu as changé de couleur, dis-je quelques instants plus tard, alors que je cassais des œufs dans un grand bol. Mais tu ne parais pas avoir vieilli d'un jour depuis la dernière fois que je t'ai vu. Le fou remplissait la tisanière d'eau bouillante.
C'est l'évolution normale de mon espèce, répondit-il à mi-voix.
Notre existence est plus longue que la vôtre. Nous la parcourons donc plus lentement. Pourtant, j'ai changé, Fitz, même si tu ne le constates qu'à l'atteinte de ma peau. La dernière fois que tu m'as vu, j'abordais à peine l'âge adulte. Toutes sortes de sentiments et d'idées inconnues s'épanouissaient en moi, si nombreux que j'avais du mal à me concentrer sur ce que je faisais. Quand je me rappelle ma conduite d'alors, ma foi, j'en suis moi-même scandalisé. Je suis beaucoup plus mûr aujourd'hui, je te le garantis. Je sais qu'il y a un temps et une place pour chaque chose, et que les buts que m'assigne mon destin doivent toujours et en tout prendre le pas sur mes désirs personnels. Je versai les œufs battus dans une poêle que je posai tout près du feu. Puis je dis d'une voix lente. « Quand tu t'exprimes par énigme, ça m'exaspère. Mais quand tu parles clairement de toi-même, ça m'effraie. »
« Raison de plus pour ne pas parler de moi du tout !»
s'exclama-t-il avec un entrain simulé.
« Allons, quelles tâches nous attendent aujourd'hui ?»
Je réfléchis en touillant les œufs qui se solidifiaient, puis en les rapprochant encore du feu. « Je n'en sais rien, » murmurai-je. Le fou parut inquiet de mon ton.
« Fitz, tu te sens bien ?»
J'étais moi-même incapable de m'expliquer ma brusque saute d'humeur. J'ai l'impression, tout à coup, que rien n'a de sens. Quand je savais que Heur passerait l'hiver en ma compagnie, je prenais toujours soin de préparer des réserves pour nous deux. Mon potager couvrait le quart de sa surface actuelle avant l'arrivée du petit, et nous chassions chaque jour, Œil de Nuit et moi, pour nous procurer de la viande. Si nous nous débrouillions mal, nous passions une journée le ventre creux, et ça n'avait guère d'importance. À présent, je regarde tout ce que j'ai mis de côté et je songe que, si Heur passe l'hiver auprès d'un maître pour commencer un apprentissage, eh bien, j'ai déjà plus qu'assez pour Œil de Nuit et moi. Parfois, je n'en vois même pas l'intérêt. Et alors, je me demande si mon existence elle-même présente encore un intérêt quelconque. Le fou fronça les sourcils, une ride verticale au milieu du front.
« Quelle mélancolie, à moins que ce ne soit l'écorce elfique qui parle. »
« Non. » Je pris les œufs auxquels j'avais ajouté de la crème et les posai sur la table. C'était presque un soulagement d'exprimer des sentiments que je refoulais depuis longtemps. C'est sans doute pour ça qu'Astéry m'a confié Heur. Elle a dû se rendre compte que ma vie ne rimait plus à rien, et elle m'a amené quelqu'un pour donner de la substance à mes jours. Le fou mit le couvert sans douceur et nous servit à grande louchée sans chercher à cacher son aversion.
Je crois que tu lui attribues indûment le mérite d'avoir pensé à autre chose qu'à ses propres besoins. À mon avis, elle s'est chargée du petit sur un coup de tête, et elle te l'a laissé sur les bras quand elle s'est lassée de lui. C'est pure chance si Heur et toi avez pu vous aider mutuellement.
Je me tus. La véhémence de son antipathie envers Astéry m'étonnait. Je m'assis et me mis à manger, mais il n'en avait pas terminé.
Si Astéry voulait que quelqu'un donne de la substance à ta vie, ce quelqu'un était elle-même. Je doute qu'elle ait jamais imaginé que tu puisses avoir besoin d'une autre compagnie que la sienne.
J'eus le soupçon désagréable qu'il avait raison.
surtout quand je me rappelais ce qu'elle avait dit d'œil de nuit et de heure lors de sa dernière visite. « Écoute, » fis-je, « sa façon de penser m'est égale. Je suis résolu à faire en sorte, j'ignore encore comment, que Heure bénéficie d'un bon apprentissage. Mais, une fois cela fait, tu seras libre de reprendre ta propre existence, et j'ai le pressentiment qu'elle va te rappeler à Castelserre. » Un pressentiment ? Répétai-je d'un ton sec. Le pressentiment d'un fou ou celui d'un prophète blanc ? Comme tu n'ajoutes jamais foi à mes prophéties, quelle importance ? Il me fit un sourire malicieux et se mit à manger ses œufs. C'est vrai, en une ou deux occasions, ce que tu avais prédit a paru se réaliser. Mais tes prédictions étaient toujours si nébuleuses qu'on aurait pu leur donner n'importe quelle signification, du moins à mon avis. Il avala sa bouchée. Ce ne sont pas mes prophéties qui étaient nébuleuses, mais ta façon de les comprendre. À mon arrivée chez toi, je t'ai prévenu que j'étais réapparu dans ta vie parce que j'en avais le devoir, non parce que j'en avais envie. Cela ne veut pas dire que je ne voulais pas te revoir, mais seulement que si je pouvais t'épargner ce que nous sommes tenus d'accomplir, j'en serais le premier heureux. Et que sommes-nous tenus d'accomplir exactement ? Exactement ? Demanda-t-il en haussant les sourcils. « Exactement et précisément, » répondis-je d'un ton de défi. « Oh, très bien. D'accord. Ce que nous devons faire exactement et précisément, nous devons sauver le monde, toi et moi, encore une fois. » Il se laissa aller contre le dossier de sa chaise et poussa encore pour la faire tenir en équilibre sur ses pieds de derrière. Ses sourcils clairs montèrent brusquement vers la racine de ses cheveux, tandis qu'il me regardait en agrandissant démesurément les yeux. J'enfouis mon visage dans mes mains, mais il souriait comme un démon, et je ne pus m'empêcher de rire. Encore une fois, je n'ai pas souvenir que nous ayons déjà sauvé le monde. Mais si, voyons, tu es vivant, non ? Et le trône des loin-voyants a un héritier. Par conséquent, nous avons complètement modifié le cours du temps. Tu as été le caillou dans l'ornière du destin, mon cher Fitz, et tu en as fait sauter la roue implacable pour la placer sur une nouvelle trajectoire. À présent, naturellement, il faut veiller à ce qu'elle y reste, et c'est ce qui sera peut-être le plus difficile. Et que devons-nous faire, exactement et précisément, pour nous en assurer ? Je le savais. Il m'appâtait pour mieux se moquer de moi, mais comme toujours, je ne pouvais m'empêcher de mordre à l'hameçon. C'est très simple. Il prit une bouchée et la mâcha lentement, savourant de me savoir suspendu à ses lèvres. Oui, très simple. Il poussa ses œufs de ci, de là dans son assiette, en découpant un morceau, puis posa sa cuillère. Il leva les yeux vers moi. Son sourire s'effaça et il déclara d'un ton grave. Je dois veiller à ce que tu ne meurs pas, encore une fois. Et toi, tu dois veiller à ce que l'héritier loin-voyant monte bien sur le trône. Et c'est le fait que je ne dois pas mourir qui t'attriste ? Demandai-je, perplexe. Oh non, bien sûr que non. Mais j'ai de sombres pressentiments quand je songe à ce que tu devras endurer pour survivre. Je repoussai mon assiette. J'avais perdu l'appétit. Je ne comprends toujours rien à tes discours, dis-je d'un ton irrité. Que si, répliqua-t-il, impitoyable. Tu prétends le contraire, je suppose, parce que c'est plus facile pour nous deux. Mais cette fois, mon ami, je vais t'asséner la vérité toute nue. Rappelle-toi nos aventures d'autrefois. N'as-tu pas connu des occasions où la mort aurait constitué une voie plus simple et moins pénible que la vie ? J'avais l'impression qu'il m'enfonçait des aiguilles de glace dans le ventre. Cependant, l'obstination est ma vertu cardinale. D'accord ? Mais y a-t-il des occasions où cela ne soit pas vrai ? Rares sont les moments de ma vie où j'ai réduit le fou au silence. Celui-ci en fut un. Il me regarda, bouche bée, tandis que ses yeux étranges n'en finissaient pas de s'élargir. Et puis, un grand sourire apparut sur ses traits. Il se leva si brusquement qu'il faillit renverser sa chaise et se précipita sur moi pour me serrer dans ses bras à m'en étouffer. Il inspira profondément, comme si une gêne dans ses poumons venait de disparaître.
« Bien sûr, tu as raison, »
murmura-t-il à mon oreille. Puis, il hurla à m'en faire éclater les tympans.
« Bien sûr que tu as raison !»
Avant que j'eusse le temps de me dégager de son étreinte suffocante, il s'écarta de moi d'un bond. Il exécuta une cabriole si vive que les teintes de ses vêtements se fondirent les unes dans les autres, puis, d'un saut léger, il monta sur ma table. Il ouvrit grand les bras comme s'il se donnait à nouveau en spectacle devant toute la cour du roi subtil et non devant un public qui se résumait à ma seule personne.
« Mourir est toujours moins pénible et plus facile que vivre, et pourtant, jour après jour, nous ne choisissons pas de mourir, parce que, tout bien considéré, la mort n'est pas le contraire de la vie, mais le contraire du libre arbitre. C'est à la mort qu'on parvient quand il n'y a plus de choix possible. Ai-je raison ?»
Si contagieuse que fût son humeur fantasque, je réussis à secouer la tête. « Tort ou raison, je n'en ai aucune idée. »«
Alors crois-moi sur parole, j'ai raison, car ne suis-je pas le prophète blanc? Et n'es-tu pas mon catalyseur qui vient changer le cours du temps? Regarde-toi, non pas le héros, le changeur, celui qui, par sa seule existence, permet à d'autres de devenir des héros. Ah, Fitz, Fitz, nous sommes ce que nous sommes et ce que nous devons toujours rester. » Or, lors d'un instant d'abattement où je perds courage au point de me dire « Mais pourquoi ne puis-je le laisser tranquille afin qu'il trouve quelque paix de l'âme ?» Voilà que tu t'exprimes avec la voix du catalyseur et modifie ma perception de mes propres actes. Et tu me permets à nouveau d'être ce que je dois être, le prophète blanc.
Je le regardais sans bouger de ma chaise et malgré moi, je sentis un sourire étirer mes lèvres. Je croyais que je permettais à d'autres de devenir des héros, pas des prophètes.
« Oh, bah !»
D'un bond gracieux, il sauta au sol. « Certains d'entre nous doivent endosser les deux rôles, malheureusement. » Il s'ébroua comme un chien, puis ajusta son pourpoint et adopta une attitude plus posée. « Pour en revenir à nos moutons, quelles tâches nous attendent aujourd'hui ? À mon tour de te fournir la réponse. La première sera de ne pas penser au lendemain. Je suivis son conseil, ce jour-là du moins, et m'adonnai à de menues occupations que je m'étais refusé jusque-là sous prétexte qu'il ne s'agissait pas de travaux sérieux destinés à préparer l'avenir, mais de passe-temps qui m'apportaient simplement du plaisir. Je m'intéressais de nouveau à mes encres, dans le but non de les vendre au marché, mais d'essayer de créer un vrai violet qui chante à mes yeux. Je n'arrivais à rien. Toutes mes tentatives se soldèrent par un résultat marronnasse après séchage. Néanmoins, je me délectais de ces recherches. Le fou, lui, se divertit en sculptant mes meubles. Le raclement de mon couteau de cuisine sur le bois attira mon attention et le fou surprit mon regard.
« Excuse-moi, » fit-il aussitôt.
Il me montra le couteau qu'il tenait entre deux doigts, puis le posa soigneusement à sa place. Il quitta sa chaise et alla fouiller ses fontes. Au bout d'un moment, il en tira un rouleau de tissu qui, une fois déployé, révéla une collection d'instruments à lame fine. En fredonnant, il revint auprès de la table et s'attaqua aux chaises à main nue, après avoir ôté le gant de cuir souple qui dissimulait habituellement ses doigts imprégnés d'art. À mesure que la journée avançait, mes sièges rustiques se garnirent d'entrelacs végétaux qui escaladaient leurs dossiers et, çà et là, de petits visages qui apparaissaient dans les feuillages. En milieu d'après-midi, je levai les yeux de mon ouvrage et vis le fou rentrer, les bras chargés de morceaux de bois secs tirés de ma réserve. Je me redressai pour l'observer. Il examina chaque pièce sur toutes les coutures, et en suivit le fil du bout de ses doigts argentés d'art, comme s'il pouvait y déchiffrer des secrets pour moi indécelables. Pour finir, il en choisit une incurvée sur laquelle il se mit au travail aussitôt
en chantonnant tout bas. Je le laissai à sa tâche. Œil de Nuit s'éveilla une fois dans le courant de la journée. Avec un soupir, il descendit lourdement de mon lit et sortit de la maison d'un pas chancelant. À son retour, je lui offris à manger, mais il refusa d'un air dégoûté. Il avait bu autant qu'il le pouvait, et il s'allongea en soupirant sur le sol frais de la chaumière. Il se rendormit, mais moins profondément qu'auparavant. Je passai ainsi tout le jour dans le plaisir, c'est-à-dire à des activités dont j'avais envie, plutôt qu'à d'autres auxquelles je me croyais astreint. Je pensais souvent à Imbre, et je me demandais, ce qui m'était rarement arrivé jusque-là, comment le vieil assassin occupait les longues heures de ses longues journées en haut de sa tour isolée avant que je devinsse son apprenti. Puis, je chassais dédaigneusement cette image de lui. Imbre était assassin royal bien avant mon arrivée. Chargé de dispenser discrètement la justice du roi partout où cela était nécessaire. La considérable collection de manuscrits qu'abritaient ses appartements et ses expériences sans fin sur les poisons et les artifices destinés à donner la mort prouvaient qu'il avait amplement de quoi s'affairer. En outre, la protection du règne des loin-voyants suffisait à donner un but à son existence. J'avais partagé ce but autrefois, mais je m'en étais dégagé pour mener ma vie propre. Il était curieux de constater que, ce faisant, je m'étais coupé de celle-là même que je désirais. Pour gagner la liberté de jouir d'une existence indépendante, j'avais tranché tous les liens qui me rattachaient à mon ancienne vie et j'avais perdu contact avec tous ceux qui m'avaient aimé et que j'avais aimé. Ce n'était pas tout à fait exact, mais ce point de vue convenait à mon humeur du moment. Quelques instants plus tard, je pris conscience que je me vautrais dans la délectation morose. Les résultats de mes trois derniers essais pour obtenir de l'encre violette viraient au brun en séchant, bien que l'un d'eux fût d'un marron très joliment teinté de rose. Je mis de côté l'échantillon de papier, après avoir noté au dos comment j'étais parvenu à cette couleur, en songeant qu'elle siérait pour des illustrations de botanique. Je me levai en m'étirant. Le fou quitta son travail des yeux pour me regarder. « Tu as faim ?» lui demandai-je. Il réfléchit. « Un repas ne me ferait pas de mal. Mais c'est moi qui cuisine. Ce que tu prépares est nourrissant, mais pas davantage. » Il posa la figurine qu'il était en train de sculpter. Il me vit y jeter un coup d'œil et la couvrit d'un tissu, d'un geste presque jaloux. « Quand j'aurai fini ?» promit-il. Sur quoi, il se mit à fouiller mes placards de fond en comble. Tandis qu'il émettait des bruits dépréciateurs sur l'absence d'épices intéressantes, j'allais faire un tour. Je franchis le ruisseau qui, si je l'avais suivi, m'aurait doucement amené jusqu'à la grève. En flânant, je gravis la colline, croisant au passage la jument et la ponette qui paissaient en liberté. Arrivé au sommet, je ralentis encore mon allure pour gagner mon banc sur lequel je m'assis. À quelques pas à peine, la pente herbue s'interrompait brusquement pour laisser place à une falaise d'ardoise qui surplombait une plage rocheuse, mais de mon banc, je ne voyais que l'immensité de l'océan. Je me sentais à nouveau fébrile, et je songeais aux rêves que j'avais faits du jeune garçon et de sa chatte de chasse, sa Marguette, en train de courir dans la nuit. Avec un sourire, je me rappelais que l'animal avait pressé l'adolescent de tout laisser derrière lui et de s'enfuir, et j'adhérais à cette idée. Je l'avais personnellement appliquée bien des années plus tôt, et j'y avais gagné une existence paisible où je me suffisais à moi-même, une existence qui aurait dû me satisfaire. Pourtant, voici que je me retrouvais sur ce banc. Quelque temps après, le fou me rejoignit. Œil de Nuit qui l'accompagnait s'étendit à mes pieds avec un soupir à fendre l'âme. « La soif de l'art te tourmente ?» me demanda le fou avec une discrète sympathie. « Non, » répondis-je, sur quoi je faillis éclater de rire. Cette dépendance qu'en toute innocence il avait réveillée en moi restait provisoirement limitée par l'écorce elfique que j'avais consommée. En d'autres circonstances, j'eusse peut-être éprouvé le désir ardent d'artiser, mais pour l'instant cette capacité était hors de portée de mon esprit.
J'ai mis le dîner à cuire à feu doux, dit le fou. Ainsi la chaleur de l'âtre ne nous chassera pas de la maison. Nous avons du temps devant nous. » Il se tut, puis demanda d'un ton circonspect. « Et, après avoir quitté ceux du lignage, où es-tu allé ?» Je soupirai. Le loup avait raison. Converser avec le fou m'aidait à mieux penser, mais peut-être cela me poussait-il aussi à trop réfléchir. Je plongeai mon regard dans les années passées et réunis les fils de mon récit. Un peu partout. À notre départ, nous n'avions aucune destination en tête, alors nous avons vagabondé de ci de là. Mes yeux se perdirent sur l'horizon. Pendant 4 ans, nous avons sillonné les 6 duchés. J'ai vu la bourre en hiver, alors que les rafales de vent recouvraient les grandes plaines de quelques pouces de neige à peine, mais que le froid semblait pénétrer jusqu'à l'ossature de la terre. J'ai traversé tout Bauges pour me rendre en Ripon. Après quoi, j'ai poursuivi jusqu'à la côte. Parfois, je cherchais de l'embauche comme journalier et j'achetais du pain. Et parfois, Œil de Nuit et moi chassions comme des loups et nous mangions notre viande crue. Je jetai un coup d'œil au fou. Il était tout ouïe et ses yeux d'or brillaient d'intérêt. S'il me jugeait, il n'en manifestait rien. Parvenu à la côte, nous avons pris un bateau pour le nord, et Œil de Nuit n'a pas apprécié le voyage. J'ai visité le duché de Béarn au plus noir d'un hiver.
Béarn ?
Le fou prit un air songeur. Autrefois, tu avais été promis à Dame Célérité de Béarn. Sa voix était neutre, mais son visage avait une expression interrogatrice. Ce n'était pas par ma volonté. Tu ne l'as sûrement pas oublié. Et je ne cherchais pas à revoir Célérité en pénétrant dans ce duché. Cependant, j'ai entrevu Dame Félicité, duchesse de Béarn, alors qu'elle passait à cheval dans une rue pour regagner le château de Castelonde. Elle ne m'a pas remarqué, et, même dans le cas contraire, je suis sûr qu'elle n'aurait pas reconnu Sir Fitz-Chevalerie sous mes haillons de vagabond. J'ai entendu dire que Célérité a fait un bon mariage, tant sur le plan amoureux que foncier, et qu'elle est à présent dame des Tours de Glace, près de la ville homonyme. Je m'en réjouis, fit le fou d'un ton grave. Moi aussi. Mon cœur n'a jamais battu pour elle, mais j'admirais sa force d'âme et je l'appréciais. Sa bonne fortune me fait plaisir. Et ensuite, je me suis rendu aux îles proches. De là, je souhaitais gagner les îles d'outre-mer afin de voir de mes propres yeux ces gens qui nous avaient harcelés et avaient fait notre malheur pendant si longtemps. Mais le loup a refusé catégoriquement d'endurer une si longue traversée. Nous sommes donc retournés sur le continent et nous avons pris la route du sud. Nous voyagions surtout à pied, mais nous avons emprunté un bateau pour passer Castelserre sans nous y arrêter. Nous avons suivi la côte de Ripon et de Orfond jusqu'à quitter les 6 duchés. La Calcède ne m'a pas plu. Aussi avons-nous embarqué sur un navire pour nous en éloigner le plus vite possible. Je me tus, et le fou, pour me relancer, demanda « Jusqu'où êtes-vous descendu ?» Je sentis un sourire suffisant naître sur mes lèvres. « Très loin, jusqu'à Terrilleville. »«
Vraiment ?»
L'intérêt du fou s'accrut.
« Et comment as-tu trouvé cette cité ?»
Active et prospère. Elle m'a rappelé gai de négoce, avec tous ses gens élégamment vêtus et leurs demeures chargées d'ornements aux fenêtres garnies de vitres. On y vend des livres sur des étals en plein vent, et dans une des rues de leur marché, chaque boutique a sa spécialité de magie. J'avais la tête qui tournait rien qu'à passer devant elle. Je ne saurais te dire de quelle magie il s'agissait, mais elles assaillaient mes sens et m'étourdissaient comme un parfum trop fort. Je secouais la tête. J'avais l'impression de n'être qu'un rustaud d'étranger, et c'est sans doute ainsi que les habitants me voyaient avec mes habits grossiers et un loup à mes côtés. Pourtant, malgré tout ce que j'y ai vu, la réalité de la ville n'était pas à la hauteur de sa légende. Quelle est la phrase classique déjà ? Si l'on peut l'imaginer, on peut l'acheter à Terrilleville. Eh bien, j'ai vu beaucoup de choses qui dépassaient mon imagination. Mais Ce n'est pas pour autant que j'avais envie de les acheter. J'ai vu aussi beaucoup de laideurs. Des esclaves, par exemple, qui débarquaient d'un navire, le bas des jambes couvert d'ulcères provoqués par le frottement des fers. Nous avons également vu un de leurs bateaux parlant. Jusque-là, j'avais toujours considéré leur existence comme une simple fable. Je me tus un moment en me demandant comment décrire aux fous les émotions que cette magie inquiétante avait suscitées chez Œil de Nuit et moi. « C'est un art devant lequel je ne me sentirai jamais à l'aise, » dis-je finalement. L'aspect exclusivement humain de la cité avait accablé le loup, et c'est avec grand plaisir qu'il avait accueilli ma proposition de la quitter. Pour ma part, cette visite m'avait rendu plus modeste, et j'éprouvais une attirance renouvelée pour la nature sauvage et isolée de la côte de Serre, ainsi que pour la rigueur austère de Castelserre. Je regardais autrefois la citadelle comme le centre de toute civilisation, mais à Terrilville, on nous traitait de barbares incultes. Les remarques dans ce sens que j'avais surprises étaient cuisantes, et pourtant, il m'était impossible de les contredire. C'est donc plus humble qu'à mon arrivée que je m'étais éloigné de la ville, résolu à parfaire mes connaissances et à mieux mesurer les véritables dimensions du monde. Je secouais la tête à ce souvenir. Avais-je respecté cet engagement? Même si Œil de Nuit avait accepté la perspective de rentrer en bateau, nous n'avions pas assez d'argent pour payer le voyage. Nous avons donc décidé de remonter la côte à pied. Le fou me regarda d'un air abasourdi. « Mais c'est impossible !» C'est ce que tout le monde m'avait dit. Mais je n'y avais vu que l'avertissement de gens de la ville, habitués à voyager dans le confort. Pourtant, ils avaient raison. Dédaignant toute mise en garde, nous nous étions donc mis en route le long de la côte, et, dans les territoires sauvages près de Terrilville, nous avions dû faire face à des phénomènes étranges, qui n'étaient pas loin de dépasser ceux que nous avions rencontrés par-delà le royaume des montagnes. Cette partie du littoral s'appelle les rivages maudits, et elle porte bien son nom. Des visions à demi achevées ne cessaient de m'assaillir, et parfois, mes rêves éveillés prenaient des aspects vertigineux et menaçants. Le loup ressentait une angoisse profonde à me voir marcher ainsi sur le fil de la folie, et aujourd'hui encore, j'ignore l'explication de mon état. Je n'avais pas de fièvre et ne manifestais aucun symptôme d'une maladie qui pût affecter l'esprit. Pourtant, il est sûr que je n'étais pas moi-même durant notre traversée de cette contrée rude et inhospitalière. Criant de réalisme, des songes où apparaissaient vérité et nos dragons étaient venus me hanter. Même éveillé, je me rongeais à l'infini pour des décisions stupides que j'avais prises par le passé, et je pensais souvent à mettre un terme à mon existence. Seule la compagnie du loup m'empêchait de commettre l'irréparable. Quand je me remémore cette période, je ne revois ni jour ni nuit, mais une suite de rêves nets et inquiétants. Je n'avais pas connu pareille distorsion de mes pensées depuis la dernière fois où j'avais arpenté la route d'Ar, et ce n'est pas une expérience que j'ai envie de renouveler. Jamais je n'avais vu de région d'où l'humanité fût à ce point absente, et je n'en ai jamais rencontré d'autres depuis. Même les animaux qu'elle abritait apparaissaient à la fois trop distincts et anormaux à mon vif. Quant aux aspects physiques de la côte, il nous était aussi étranger que son atmosphère. Il y avait des fondrières fumantes, d'où émanait une puanteur qui nous piquait les narines, des marécages luxuriants, où les plantes semblaient tordues et déformées malgré leur exubérance et leur abondance. Nous avions fini par atteindre la pluie, que les gens de Terrilville appellent le fleuve du désert des pluies, et je ne sais quelle lubie malsaine m'avait convaincu d'en remonter le cours vers l'intérieur des terres. En tout cas, j'avais essayé, mais les berges au sol mouvant, la végétation étouffante et les rêves incompréhensibles nous avaient bientôt contraints à rebrousser chemin. Un composant du terrain rongeait les coussinets des pattes d'Œil de Nuit et avait tant attaqué le cuir épais de mes bottes qu'il n'en restait guère que des lambeaux. Nous avions fini par nous avouer vaincus, mais nous avions alors couronné notre folle entreprise par notre plus grande erreur. Nous avions abattu de jeunes arbres pour confectionner un radeau.
Le flair d'œil de nuit nous avait déconseillé de nous abreuver de l'eau du fleuve, mais il n'avait pas mesuré pleinement le danger qu'elle présentait. Notre embarcation de fortune avait tenu juste assez pour nous ramener à l'embouchure, mais nous n'avions pas pu éviter tout contact avec le liquide que charriait le fleuve et nous étions couverts de plaies ulcéreuses. C'est donc avec soulagement que nous nous étions plongés dans de l'honnête eau de mer qui, malgré la morsure du sel, s'était avérée des plus efficaces pour cicatriser nos lésions. Calcède prétend depuis longtemps détenir un droit de propriété sur les terres qui s'étendent jusqu'à la pluie, et affirme que Terrilville se trouve sous sa domination, mais nous n'avions relevé aucun signe de peuplement sur la côte. Œil de nuit et moi avions poursuivi vers le nord notre longue route semée d'embûches, et 3 jours après avoir quitté le fleuve, nous étions sortis de la région des phénomènes étranges, mais nous avions encore marché 10 jours avant de rencontrer des signes de présence humaine. À ce moment-là, nos plaies étaient en grande partie guéries grâce aux bains d'eau salée que nous prenions régulièrement, et j'avais retrouvé la maîtrise de mes pensées. Mais je présentais l'apparence d'un vagabond épuisé, accompagné d'un chien galeux. Les gens ne nous faisaient pas bon accueil. Ma traversée de Calcède, rude pour mes pieds meurtris, m'avait convaincu que les habitants de ce pays sont les plus inamicaux du monde, et ce que m'en avait raconté Burick était le reflet de l'exacte vérité. Même leurs cités magnifiques m'avaient laissé de marbre. Leurs merveilles architecturales et les sommets de leur civilisation reposent sur les fondations de la misère humaine. Et j'étais resté horrifié devant la réalité ordinaire et généralisée de l'esclavage. J'interrompis mon récit pour poser les yeux sur le clou d'oreille que portait le fou. Il avait appartenu à la grand-mère de Burick, récompense durement méritée, symbole de la liberté acquise par une esclave. Le fou leva la main pour le toucher du bout de l'index. Au milieu de plusieurs autres bijoux en bois sculpté, sa résille d'argent attirait le regard.
« Burick et Molly, »
fit le fou à mi-voix, « je te pose franchement la question cette fois. As-tu cherché à les revoir ?» Je baissai la tête un moment. « Oui, avouai-je enfin. » Il est étrange que tu me parles de maintenant, car c'est pendant mon passage en Calcède que j'ai été pris de l'envie soudaine et pressante de les retrouver. Un soir, alors que nous campions très à l'écart de la route, j'avais senti un songe puissant prendre les rênes de mon sommeil. Peut-être m'était-il venu parce que dans un recoin de son cœur, Molly me gardait encore une place. Cependant, je n'avais pas rêvé d'elle comme un homme amoureux rêve de sa bien-aimée. Je m'étais retrouvé dans mon propre corps, m'avait-il semblé, un corps très petit, brûlant et malade à en mourir. C'était un songe obscur, tout de sensations, sans image aucune. J'étais roulé en boule, serré contre la poitrine de Burick, et seule sa présence et son odeur m'apportaient quelque réconfort dans ma détresse. Puis des mains insupportablement froides avaient touché ma peau enfiévrée. Elles avaient tenté de me soulever, mais je m'étais débattu en criant et en m'accrochant à Burick. Son bras vigoureux s'était refermé sur moi.
« Laisse-la »
avait-il dit d'une voix rauque. J'avais alors entendu la voix de Molly, lointaine, vacillante et déformée.
« Burick, tu es aussi mal en point qu'elle. Tu n'es pas en état de t'en occuper. Laisse-moi la prendre pendant que tu te reposes. »
« Non. » Elle est bien près de moi. Charge-toi de chèvre et de toi-même.
Ton fils n'a rien. Lui et moi nous portons bien. Il n'y a qu'Orti et toi qui êtes malade. Laisse-moi la prendre, Burick.
Non,
avait-il répondu dans un gémissement. Sa main s'était posée sur moi dans un geste protecteur.
C'est ainsi que l'épidémie de peste sanguine a débuté quand j'étais enfant. Elle a tué tous ceux que j'aimais, Molly. Si tu me prends, Orti, et qu'elle meure, je ne m'en remettrai jamais. Je t'en prie, laisse-la près de moi.
Pour que vous puissiez mourir ensemble ?
Avait-elle lancé d'une voix lasse et trop aiguë. Celle de Burick était empreinte d'une terrible résignation.
S'il le faut, la mort est plus froide quand on l'attend seul. Je tiendrai chaud à la petite jusqu'à mon dernier souffle. »
Il délirait, et j'avais perçu la colère de Molly et la peur qu'elle éprouvait pour lui. Elle lui avait apporté de l'eau, et je m'étais agité quand elle l'avait aidé à se redresser à demi pour boire. J'avais tenté moi aussi de boire au gobelet qu'elle avait porté à ma bouche, mais j'avais les lèvres crevassées et douloureuses, la migraine me martelait les tempes et la lumière était trop vive. J'avais repoussé le récipient et un peu d'eau était tombée sur ma poitrine, froide comme glace. J'avais poussé un hurlement, puis m'étais mise à geindre.
« Chut, Horty, chut !»
avait fait Molly, mais ses mains étaient gelées sur ma peau brûlante. Je ne voulais rien avoir à faire avec ma mère, et j'avais capté un écho de la jalousie d'Horty envers cet autre enfant qui accaparait le trône de son giron. Je m'étais agrippé à la chemise de Burick, et il m'avait reprise contre lui en fredonnant tout bas de sa voix grave. J'avais enfoui mon visage contre sa poitrine pour échapper à la lumière, et j'avais essayé de dormir. J'y avais mis tant d'acharnement que cela m'avait réveillé. J'avais ouvert les yeux et entendu ma respiration rauque. J'étais en nage, mais je restais englué dans le souvenir de mon rêve d'art et de ma peau tendue, brûlante et desséchée. Je m'étais enroulé dans mon manteau quand je m'étais couché. À présent, je me débattais pour échapper à son étreinte. Nous avions décidé de passer la nuit sur la rive d'un ruisseau. Débarrassé du manteau, je m'étais rendu d'un pas mal assuré au bord de l'eau et j'avais bu longuement. En relevant la tête, j'avais remarqué le loup qui m'observait, assis, très raide, la queue ramenée proprement sur les pattes. Il avait compris que je devais me mettre à leur recherche, et nous avons pris la route la nuit même.
« Et tu savais quelle direction suivre ou les trouver ?»
demanda le fou. Je secouai la tête. « Non, je ne savais rien, sinon que... quand ils avaient quitté Castelserre, ils s'étaient installés près d'un village du nom de Capellan. Et je connaissais aussi le... comment dire... l'atmosphère de la région où ils habitaient. Sans plus de renseignements, nous nous sommes mis en chemin. Après des années d'errance, j'éprouvai un sentiment curieux à m'être donné une destination, et plus encore, à me hâter pour l'atteindre. Je ne songeais pas à la folie de mon entreprise, mais une partie de moi-même en reconnaissait l'inanité. Nous étions trop loin du but. Je n'y parviendrai jamais à temps. Quand j'arriverai, Burick et Horty seraient déjà morts ou guéris. Néanmoins, nous nous étions lancés dans ce voyage, et je ne pouvais plus m'en détourner. Pendant des années, j'avais fui tous ceux qui risquaient de m'identifier, et tout à coup, voilà que j'étais prêt à ressurgir dans leur vie. Mais je refusais de réfléchir à ces questions, et j'avançais avec entêtement. Le fou hocha la tête d'un air compatissant. Il en devinait bien plus, je le craignais, que je ne lui en racontais. Après avoir passé une partie de mon existence à nier et à repousser les avances trompeuses de l'art, je m'y étais brusquement laissé aller à nouveau. L'intoxication qu'induit cette magie m'avait saisi entre ses griffes, et je lui avais rendu son étreinte, déconcerté par la force avec laquelle elle me revenait, mais refusant de la combattre. Malgré les migraines qui me vrillaient les tempes, après chaque tentative, j'avais essayé d'artiser Molly et Burick presque chaque soir, sans résultat encourageant. Rien n'égale l'ivresse de la rencontre de deux esprits formés à l'art, mais... se servir de l'art pour espionner, c'est une autre paire de manches. On ne m'avait jamais enseigné cette technique, et je ne disposais que de la mince connaissance que j'avais acquise par l'expérience. Mon père avait fermé Burick à l'art de crainte qu'on utilise son ami contre lui, et Molly, autant que je le sache, n'avait aucune prédisposition à cette magie. En employant l'art pour me projeter chez eux, il m'était impossible d'établir le moindre contact mental, et je ne parvenais qu'au résultat frustrant de les observer sans pouvoir leur révéler ma présence. Et j'avais bientôt découvert que je n'arrivais même pas automatiquement à cette piètre fin. Laissé à l'abandon, mon talent s'était rouillé. Le moindre effort pour artiser me laissait épuisé, affaibli par la souffrance. Pourtant,
j'étais incapable de résister à l'envie d'essayer. Je m'évertuais à établir ces brefs contacts en quête de renseignements. Vision fugitive de collines derrière leur maison, odeur de la mer, moutons à tête noire paissant sur un versant éloigné. J'accumulais, comme autant de joyaux, ces aperçus de leur environnement, en espérant qu'ils suffiraient à me guider jusqu'à eux. Je ne maîtrisais pas mes observations. Souvent de fois, je me retrouvais témoin des tâches les plus banales. La corvée quotidienne d'un bac de linge sale à laver et à étendre, la récolte et le séchage d'herbes aromatiques et médicinales, et oui, l'entretien des ruches. Il m'arrivait d'entrevoir un nourrisson que Molly appelait chèvre, dans le visage de qui je retrouvais les traits de Burick et dont la vue m'inspirait à la fois étonnement et jalousie brûlante. J'avais fini par atteindre un village du nom de Capellan et j'avais découvert la chaumière, où ma fille avait vu le jour. La demeure avait connu d'autres occupants depuis, et je ne pus y déceler aucune trace de Molly et Burick. Cependant, le museau du loup était plus efficace que mes yeux, et Œil de Nuit m'assura qu'ils étaient bien passés par là, mais qu'ils étaient partis depuis longtemps. Et j'ignorais pour quelle destination. Je n'avais pas osé me renseigner franchement au village, car je ne tenais pas à ce qu'on avertisse Burick ou Molly qu'un inconnu les recherchait. Mon périple jusqu'à Capellan avait duré plusieurs mois, et dans chaque bourg ou chaque hameau que je traversais à présent, je voyais des tombes fraîchement creusées. Quelle qu'eût été la maladie dont souffraient Burick et Horty, elle s'était largement répandue et avait fait de nombreuses victimes. Or, dans aucune de mes visions, je n'avais vu Horty. L'épidémie l'avait-elle emportée, elle aussi? Décrivant des cercles de plus en plus grands autour de Capellan, j'avais visité les auberges et les tavernes des villages voisins, en me faisant passer pour un voyageur légèrement excentrique, obsédé par l'élevage des abeilles et prétendant tout savoir sur le sujet. Cela me permettait de lancer des discussions où certains de mes interlocuteurs corrigeaient mes erreurs et se mettaient à évoquer les éleveurs qu'ils avaient connus. Pourtant, tous mes efforts pour récolter le moindre renseignement sur Molly étaient restés stériles, jusqu'à une fin d'après-midi, ou alors que je suivais une piste étroite qui menait au sommet d'une colline, j'avais brusquement reconnu un bosquet de chênes. Tout mon courage m'avait abandonné en un instant. J'avais quitté la piste pour m'enfoncer discrètement dans les bois qui la bordaient. Le loup m'avait accompagné sans poser de questions, sans même s'introduire dans mon esprit, tandis que je me mettais à l'affût de mon ancienne existence. En début de soirée, nous étions parvenus à un versant qui dominait leur chaumière. La propriété paraissait bien tenue et prospère. Des poules grattaient la terre de la basse-cour et trois ruches en paille piquetaient la prairie qui s'étendait au-delà. Il y avait un jardin potager soigné et derrière la maison se dressait une grange manifestement récente entourée de plusieurs enclos de troncs écorcés. J'avais alors senti une odeur de cheval. Burick se débrouillait bien. Assis dans le noir, j'avais regardé l'unique fenêtre de la chaumière s'illuminer de la clarté jaune d'une bougie, puis s'obscurcir au bout d'un moment. Le loup avait chassé seul pendant que je poursuivais ma veille, aussi incapable de me rapprocher que de m'en aller, immobilisé, pris au piège, comme une feuille d'automne à la lisière d'un remous d'eau. J'avais soudain compris les légendes des fantômes condamnés à hanter pour toujours les mêmes êtres. Aussi loin que m'emmèneraient mes errances, une partie de moi-même resterait éternellement enchaînée à cette chaumière. À l'aube, Burick était sorti. Sa claudication était plus prononcée que dans mes souvenirs, et sa mèche blanche plus visible. Il avait levé le visage vers le ciel, couleur de grisaille, en inspirant longuement par le nez, et, le loup en moi s'éveillant un instant, j'avais craint qu'il ne flaire ma présence. Mais non. Il s'était simplement dirigé vers le puits. Avait tiré un seau d'eau, elle l'avait emporté dans la maison avant de ressortir peu après pour jeter du grain aux poules. De la fumée s'était élevée de la cheminée. Molly aussi était debout et déjà au travail. Burick avait pris la direction de la grange et, en imagination,
mais avec autant de netteté que si je l'avais accompagné, j'avais suivi sa tournée quotidienne. Il allait examiner chacune de ses bêtes, après quoi il ressortirait. Et il était effectivement ressorti, pour tirer à nouveau de l'eau du puits et emporter des seaux dans la grange en une longue noria. Ma gorge se noua un instant et je m'étranglais, puis j'éclatais de rire. Des larmes brouillaient ma vue, mais je n'y prêtais pas attention. Crois-le ou non, fou, mais c'est à ce moment-là que j'ai été le plus près de lui révéler ma présence. J'avais l'impression de n'avoir rien accompli d'aussi contre nature que de le regarder travailler sans m'activer à ses côtés. Le fou hocha la tête sans rien dire, suspendu à mes lèvres. Quand il est réapparu pour la dernière fois, il menait un étalon rouant par la bride. Je suis resté le souffle coupé devant l'animal. La moindre de ses lignes le désignait comme appartenant à la fine fleur de Castelserre. La courbe de son encolure proclamait sa force de caractère, son garrot et sa croupe sa puissance. J'ai senti mon cœur se gonfler de joie à sa simple vue, et je me suis réjoui de le savoir aux soins de Burick. Il a lâché le cheval dans un enclos, puis il a rempli l'abreuvoir en tirant encore plusieurs seaux du puits. Lorsqu'ensuite il a sorti Rousseau, une grande partie du mystère s'est dissipée. J'ignorais alors qu'Astéry, après de longues recherches, avait retrouvé Burick et fait en sorte qu'on lui confie son ancienne monture et le petit dessus. Mais j'éprouvais simplement du plaisir à voir l'homme et le cheval réunis. Rousseau paraissait avoir acquis un tempérament stable et accommodant. Néanmoins, Burick ne l'a point parqué dans l'enclos contigu à celui de l'autre étalon, mais dans le plus éloigné. Il a tiré de nouveau quelques seaux d'eau pour Rousseau, auquel il a asséné une claque amicale sur la croupe avant de retourner à la chaumière. C'est alors que Molly est sortie. La respiration bloquée, je me tournais vers l'océan. Mais ce n'est pas l'immensité liquide que je vis. Devant mes yeux dansait l'image de celle qui avait été ma bien-aimée. Ses cheveux sombres, aux mèches autrefois rebelles et flottant au vent, étaient à présent sagement tressés et maintenus en place, à grand renfort d'épingles, pour former la coiffure classique en couronne d'une bonne mère de famille. Un petit garçon la suivait d'une démarche encore branlante. Un panier au bras, elle s'était dirigée avec une grâce tranquille vers le potager, son ventre arrondi drapé d'un tablier blanc. La jeune fille vive et mince avait disparu, mais j'avais trouvé la femme non moins attirante, et mon cœur se mourait d'amour pour elle, et tout ce qu'elle représentait. Un foyer accueillant, une vie posée, le partage des années à venir qu'elle remplirait d'enfants et de chaleur. J'ai prononcé son nom tout bas et, à ma grande surprise, elle a soudain levé la tête. L'espace d'un douloureux instant, j'ai cru qu'elle avait perçu ma présence, mais, au lieu de regarder vers la colline où je me trouvais, elle a éclaté de rire et s'est exclamée : « Chevalerie, non, ce n'est pas bon à manger !» Elle s'est penchée pour retirer une poignée de fleurs de pois de la bouche de l'enfant. Puis, elle l'a pris dans ses bras. Et j'ai bien vu l'effort que cela lui demandait. Elle s'est tournée vers la maison et a crié : « Mon amour, viens prendre ton fils avant qu'il n'arrache tout le potager, et dis à Horty qu'elle vienne me déterrer quelques navets. » J'ai entendu Burick répondre : « Une minute. » Peu après, il est apparu sur le seuil et a lancé par-dessus son épaule : « Nous terminerons la vaisselle plus tard, viens aider ta mère !» Il a traversé la cour en quelques enjambées, et il a pris son fils, l'a soulevé à bout de bras, et le petit a poussé un cri de ravissement quand Burick l'a installé sur son épaule. Molly a posé une main sur son ventre et s'est jointe à leur rire en les regardant avec une expression de parfaite félicité. Je me tus. Je ne distinguais plus l'océan. Les larmes m'aveuglaient comme un épais brouillard. Je sentis la main du fou sur mon épaule. « Tu ne t'es pas montré, n'est-ce pas ?» Je secouai la tête, incapable de prononcer un mot. Je m'étais enfui. Enfui pour échapper à la jalousie dévorante qui me taraudait et à la peur d'apercevoir ma fille
et de ne pas pouvoir résister à l'envie d'aller la voir. Je n'avais aucune place dans leur vie, pas même aux plus lointaines limites de leur monde. Je le savais, comme je le savais depuis le jour où j'avais appris qu'ils allaient se marier. Si je frappais à leur porte, je n'apporterais chez eux que le malheur et la destruction. Je ne suis pas meilleur qu'un autre. En moi bouillonnait de la rancœur et de la colère contre ces deux êtres, mais, en même temps, je me sentais envahi par un sentiment de solitude absolue devant le destin qui nous avait tous trahis. Je ne pouvais pas leur en vouloir de s'être tournés l'un vers l'autre, mais je ne pouvais pas non plus me tenir responsable des tourments atroces qu'ils m'avaient infligés en m'excluant ainsi pour toujours de leur vie. Tout était consommé, et les regrets étaient vains. Les morts, me disais-je, n'ont pas le droit de se lamenter. Le seul mérite que je puis m'accorder est celui de m'être en allée sans laisser ma douleur empoisonner leur bonheur, ni risquer de détruire le foyer de ma fille. J'avais au moins trouvé cette force-là en moi. Je pris une longue inspiration et retrouvai ma voix. Et mon histoire s'achève là, fou. L'hiver suivant, nous étions installés ici même. Nous avions découvert cette chaumine et avions pris nos quartiers, et nous ne l'avons plus jamais quittée. Je soupirai, puis repensai au récit que je venais de faire. Je n'y trouvais rien d'admirable. La question que me posa soudain le fou m'ébranla. « Et ton autre enfant ?» fit-il à mi-voix. « Comment ?»« De voir. Ne l'as-tu pas vu ? N'est-il pas ton fils, tout autant qu'Orti et ta fille ?»« Je... Non. Non. Ce n'est pas mon fils. Et je ne l'ai jamais vu. » C'est l'enfant de Ketriken et l'héritier de vérité. Je suis sûr que c'est ainsi que Ketriken le considère. Je me sentis rougir, gêné que le fou eût soulevé le sujet. Je posai la main sur son épaule. Mon ami, toi et moi sommes les seuls à savoir que vérité s'est servie de moi, de mon corps. Quand il m'en a demandé la permission, j'ai mal compris sa requête, et je n'ai aucun souvenir de la conception de devoir. Tu dois bien te le rappeler. J'étais en ta compagnie, prisonnier de la chair malmenée de vérité. Mon roi a fait ce qu'il a fait pour avoir un héritier. Je ne lui en tiens pas rigueur, mais je préfère oublier cet épisode.
Astéri n'est pas au courant ? Ni même Ketriken ?
Astéri dormait cette nuit-là. Si elle avait nourri le moindre soupçon, je parie qu'elle en aurait parlé depuis longtemps. Une ménestrelle n'aurait jamais laissé passer pareil événement sans en faire une balade, même si la sagesse lui recommandait de le taire. Quant à Ketriken, ma foi, l'art consumait vérité comme un feu de joie, et elle n'a vu que son roi dans son lit cette nuit-là. Je suis sûr que si elle avait eu un doute... Un brusque soupir m'échappa, et j'avouai. J'ai honte de m'être prêté à cette mise en scène. Je sais que je n'ai pas à contester la volonté de vérité dans cette affaire, mais enfin. Ma voix mourut. Même au fou, j'étais incapable de confesser la curiosité que m'inspirait de voir ce fils qui était de moi tout en ne l'étant pas, et envers qui j'avais fait le même choix que mon père envers moi, celui de ne pas le connaître, afin de le protéger. Le fou posa la main sur la mienne et la serra fermement. Je n'en ai parlé à personne, et je te promets de garder le secret. Il se tut un instant. Ainsi, tu es arrivé ici où tu t'es installé en paix. C'est vraiment la fin de ton histoire ?
Oui. C'était la fin. Après mes derniers adieux au fou, j'avais passé le plus clair de mes jours à chasser ou à me cacher. Et la chaumine où j'habitais désormais constituait la tanière où je m'étais égoïstement retiré du monde, ainsi que je le déclarais
à mon compagnon.
À mon avis, Heur ne partagerait pas ce point de vue, répondit-il avec douceur. En outre, la plupart des gens considéreraient qu'ils ont assez mérité en sauvant le monde une fois dans leur vie, et ils n'envisageraient même pas d'en faire davantage. Mais, comme ton cœur paraît décidé, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour te permettre de recommencer. Et il haussa les sourcils d'un air engageant. J'éclatai de rire, mais je me sentais mal à l'aise. Je n'ai nul besoin de me voir en héros fou. Je me contenterai volontiers d'avoir l'impression que je ne suis pas le seul à accorder de l'importance à mes actes quotidiens. Il se laissa aller un peu en arrière sur mon banc et me regarda un moment d'un air grave. Puis, il haussa les épaules. Rien de plus facile. Une fois Heur placé en apprentissage, viens me retrouver à Castelserre. Je te promets toute l'importance que tu souhaites.
Ou bien une belle tombe, si jamais on me reconnaît. N'es-tu pas au courant de l'hostilité à laquelle se heurtent actuellement ceux qui possèdent le vif ?
Non, je ne suis pas au courant, mais cela ne m'étonne nullement. Quant au risque qu'on te reconnaisse, tu m'as déjà confié cette inquiétude dans un contexte différent, et je me trouve obligé de tomber d'accord avec Astérie. À mon avis, tu passerais presque inaperçu. Tu ne ressembles plus guère au Fitz chevalerie loin-voyant d'il y a 15 ans, celui dont on a conservé le souvenir. Tes traits présentent les caractéristiques de la lignée royale, si on cherche bien, mais les croisements consanguins sont fréquents à la cour, et de nombreux nobles portent les traces de la même ascendance. Si par hasard quelqu'un t'examinait un peu attentivement, de quel point de comparaison disposerait-il ? De vieux portraits fanés dans des salles mal éclairées ? Tu es le seul adulte de ta lignée encore en vie. Subtil s'est éteint il y a des années. Ton père s'est retiré à Flétribois avant de mourir, et Vérité était devenu un vieillard avant l'âge. Je sais qui tu es, et c'est pour cela que je remarque la ressemblance. Je ne pense pas que tu aies à redouter le regard inattentif d'un courtisan. Il s'interrompit, puis me demanda d'un ton grave. « Alors, t'attendrai-je à Castelserre avant que la neige tombe ?»«
Peut-être, » répondis-je sans m'engager.
Je doutais d'être fidèle au rendez-vous, mais je préférais ne pas user ma salive à discuter avec le fou. « Parfait, je t'attendrai, » fit-il d'un ton sans réplique. Puis, il me donna une claque sur l'épaule. « Retournons à la maison. Le dîner doit être prêt et je veux terminer mes sculptures. »